Moi, le Seigneur a mis sur mon cœur depuis déjà longtemps, vous le savez, d'étudier la fin des temps. Alors, je vais vous parler de cela, sachant que c'est un sujet qui est tellement vaste, qui a tellement de facettes, qu'aujourd'hui, on va parler de la facette mondialisation. Ça, c'est une réflexion qu'on va faire ce matin qui a été donnée par un économiste chrétien qui s'appelle Jean-Pierre Graber et qui est suisse et qui a beaucoup travaillé sur cette question. Et donc, vous savez, quand on regarde la mondialisation, souvent les chrétiens, ils se demandent comment tout ça va finir, évidemment, comment tout ça va se passer. Et puis on parle aussi de la fameuse marque de la bête, toutes ces choses-là. Il y a même eu une émission sur la 5, sur Arte, cette semaine, pour parler un peu de tout ça. Je voudrais vous rassurer au sujet de cette marque, c'est que les chrétiens, j'ai la conviction qu'ils auront été enlevés avant, et par conséquent, ça ne nous concerne pas. Mais, si vous voulez, actuellement, on a deux idéologies très fortes qui s'affrontent. Une première idéologie qu'on a coutume d'appeler la mondialisation, mais qui en fait cache des choses, et c'est plutôt le mondialisme, vous savez, les ismes. Hein. Et puis, il y a une autre idéologie qui l'affronte, c'est l'islamisme. Et ces deux idéologies vont s'affronter, s'affrontent déjà d'ailleurs, et l'un l'emportera sur l'autre. Et vraisemblablement, c'est le mondialisme qui l'emportera, en tout cas, très certainement. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'Antichrist, qui doit dominer le monde, a besoin d'une structure. Il a besoin d'une structure économique et militaire. Par conséquent, il va certainement dominer sur toutes ces choses. Alors, la question de l'islamisme, on l'abordera peut-être une autre fois, si ça vous intéresse, mais c'est un autre problème. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du mondialisme. Alors, on voit les conséquences dans notre économie, on voit les choses qui se produisent. Enfin, ça fait quand même pas si longtemps que ça qu'on a l'Internet, que la vie change avec ces choses, complètement. Alors, je vais donc aborder ce sujet. Et en fait, les hommes, qu'est-ce qu'ils voudraient faire? C'est d'installer le royaume sur Terre. C'est ça leur objectif. Alors, on parle de mondialisation. Et on se rend compte que c'est une roue qui tourne, qu'on ne peut plus arrêter. Par exemple, on voit les médias qui se sont internationalisés parce qu'il faut couvrir les événements mondiaux. La mondialisation a permis la fusion de plusieurs pays. Prenez par exemple la fusion de l'Europe. Ça a permis d'arrêter les guerres éternelles entre la France et l'Allemagne, par exemple. Et ces choses-là. Hein. Il y a la libéralisation des marchés, la fusion des entreprises. On ne parle plus de petites entreprises, mais d'entreprises mondiales. Hein. Donc on ne peut pas arrêter ces choses-là. Et il y a de plus en plus imbrication des économies les unes dans les autres. Hein? Moi, je vois par exemple, ils ont essayé de remettre une usine de chaussures en Dordogne. Eh bien, on ne savait plus les faire. Il a fallu aller chercher un formateur chinois. Vous voyez, les économies sont imbriquées. Et il y a des fléaux aussi, des fléaux internationaux. Prenez par exemple les problèmes de la drogue. C'est un fléau international. Prenez le problème du terrorisme, c'est mondial. Prenez également les maladies qui se répandent de pays en pays, tous ces fléaux sont mondiaux. Et il faut une réponse mondiale à tout ça. Et puis, il y a eu également, le 9 novembre 1989, l'effondrement du mur de Berlin, avec toutes les conséquences économiques et même politiques, et enfin, c'est sous ce monde communiste qui nous faisait peur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens, la peur qu'on avait que les communistes nous attaquent un jour. Et on avait installé des fusées, etc. Pan, ils se sont écroulés. Tout le monde a changé. Et actuellement, il y en a un qui domine énormément sur tous les autres. Et le monde aussi a de plus en plus besoin d'organisations telles que l'ONU, telles que l'UNESCO, des organisations mondiales. Et puis, on voit aussi apparaître une nouvelle notion qui n'existait pas avant, qui est la notion d'ingérence. C'est-à-dire que l'ensemble de pays, de l'ONU par exemple, pourra se mêler des affaires de l'un ou de l'autre si c'est un point trop dangereux. Alors tout ça, c'est quelque chose qui se met en place, qu'on ne peut pas arrêter. Et c'est ça ce que je viens de vous dire, c'est ce qui est apparent. C'est ce qui est apparent. Et ça nous fait peur d'une certaine manière. Mais ce que je voudrais vous dire, moi, c'est les choses qui sont en dessous. Parce que c'est un projet qui est mené par le malin, parce que vous savez bien que l'Antichrist doit chapeauter tout ça un jour, et quand il va se révéler, toute la structure sera en place. Elle est en train de se mettre en place, cette structure. Et un jour, et c'est écrit, que nous le verrons, il faut que l'on voie paraître l'homme impie. C'est écrit, donc nous le verrons, nous, chrétiens, avant l'enlèvement. Et donc toute la structure se met en place. Mais en dessous, bien sûr, il y a l'objectif de l'Antéchrist de faire une sorte de paradis sur terre. C'est ça son objectif, remplacer Dieu finalement. Alors les causes profondes sont très latentes, elles sont en dessous. Et vous savez qu'il est dit dans la parole que Satan est le prince de l'air. Ça veut dire que ses idées, ses pensées sont dans l'air. Et elles se diffusent sur la planète. Vous avez peut-être constaté d'ailleurs qu'on a fait des découvertes scientifiques à plusieurs endroits de la planète en même temps, sans que les gens se connaissent. Il y a eu des idées qui se sont diffusées comme ça. Et les idées se diffusent de plus en plus. Par exemple, quand, en plus maintenant avec les moyens matériels, ça va très vite, mais quand on décide dans un pays d'une loi, quelle qu'elle soit, mais je prends l'exemple de l'avortement, eh ben après ça passe de pays en pays, et ça se répand, et si on est contre, on passe pour des imbéciles. Donc il y a une pensée qui s'étale comme ça, et c'est une pensée qui vient de celui qui est notre ennemi. Alors, le Seigneur nous dit la chose suivante dans l'Évangile, dans l'Épître aux Galates. Il nous dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon sa volonté. » Alors, dans la Bible, le siècle présent, ça représente le monde actuel. Alors, il est présent depuis 2000, 6000 ans. Hein, c'est le siècle présent, mais il nous dit, bien dit qu'il est mauvais. Qu'il est mauvais. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous faire un dessin, la vie est de plus en plus dure. Et le Seigneur, lui, il est venu pour nous arracher à ce siècle présent mauvais. Or, il y a un autre verset qui nous dit, 2 Corinthiens 4, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, écoutez, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Ça veut dire que dans cette civilisation, dans ce monde, il y a un Dieu qui a aveuglé la majorité de l'humanité afin qu'elle ne comprenne pas l'Évangile. Et ça, c'est terrible. Et l'œuvre de Jésus-Christ, c'est de venir nous arracher à ce siècle et comprendre l'Évangile, et recevoir l'Évangile et être sauvé. Donc, tant que ce siècle dure, eh bien, ce démon Satan est considéré par, même sans le savoir, la majorité de l'humanité comme un dieu. Et ça, c'est très flatteur pour lui. Il est très heureux d'être dans cette position de Dieu, Dieu de ce siècle. Par conséquent, Dieu a décidé d'interrompre ce siècle afin que Satan ne soit plus le Dieu de ce siècle et qu'il retourne à sa position. Mais avant ça, avant justement que ce siècle s'effondre, Satan va tenter une seconde fois l'humanité dans sa généralité. Je veux dire, Satan nous tente tous les jours. Je ne vais pas dire qu'il tente qu'une seule fois. Mais la première grande tentation de Satan, c'était la tentation sur Adam et Ève. Et puis, depuis ce temps-là, il s'est passé plein de choses. Mais à la fin des temps, il va y avoir une seconde grande tentation. Et ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ça, c'est écrit, frères et sœurs, dans l'Apocalypse, au chapitre 3, et à l'église de Philadelphie, où il dit « Je vais te garder de l'heure de la tentation qui va venir sur la terre entière. » Donc la terre entière. Et ça, ça ne s'est jamais produit. Ça s'est produit à certaines régions. Vous savez, il y a eu des tentations de vouloir remplacer Dieu ici ou là. Ça a été le cas du communisme, ça a été le cas du nazisme, etc. Mais c'était relativement local. Mais là, ça va être sur toute la terre. Et c'est le seul verset où il parle de toute la terre. Ça ne s'est jamais produit. Maintenant, si vous voulez, nous sommes dans une société qui est post-chrétienne. Il ne faut pas se voiler les yeux. Il y a assez peu de chrétiens dans notre société, même si on dit qu'on habite dans des pays chrétiens. C'est une société qui est post-chrétienne, mais qui a des souvenirs. Quand vous posez des questions aux gens, les gens ont des souvenirs vagues de l'Évangile. Il y a certains mots qui ressortent, et il y a certains mots qui frappent, parce que les gens sont anxieux. Ils sont anxieux, ils sentent qu'il va se passer quelque chose. Ils ne savent pas trop dire quoi. Et puis alors on fait des films où c'est Apocalypse Now. Vous voyez, on prend des mots de la Bible comme ça, et ça, les gens connaissent ces mots. Apocalypse. Et puis quand on fait des films sur l'Apocalypse, c'est des catastrophes. Hein? Alors les gens ont ça dans la tête. Et en même temps, Dieu a mis dans chacun d'entre nous, croyant ou non, dans chacun, il a mis la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que chacun pense qu'il y a autre chose. Il y a autre chose, parce que Dieu l'a mis au fond de son cœur. Et alors, chacun va chercher cette autre chose. Et vous savez que sur Terre, il y a à peu près 2000 religions. Oui, c'est comme un supermarché. On cherche l'autre chose, parce que Dieu a mis la soif à l'intérieur. Alors chacun va chercher, et puis si ça le contente, ben il en reste là où il est. Alors, excusez-moi, je vais me dépêcher parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Voilà, le problème c'est que on voudrait changer l'humanité, on voudrait changer notre vie, on voudrait changer la société, mais sans changer la nature de l'homme. Parce que la nature de l'homme est mauvaise. Et il nous est dit dans Genèse, dans le livre de la Genèse, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Parce que l'homme est devenu méchant en quelque sorte, eh bien alors Dieu l'empêche de faire tout ce qu'il voudrait. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu, à cause de la chute de l'homme, a mis 8 piquets autour de l'humanité. Il a mis 8 piquets, qui sont les 8 piquets de la condition humaine. Et ces 8 piquets qu'on va passer en détail, seul Dieu peut les retirer. Mais l'objectif du malin, ce serait de d'essayer aussi de les retirer, ces piquets. Et c'est ça son objectif dans la mondialisation. Vous voyez ? On est comme dans une, je ne vais pas dire une prison, parce qu'on n'est pas en prison, mais Dieu nous a mis dans des conditions humaines dont nous ne pouvons pas sortir, sauf si Dieu nous en donne la solution. Alors, pour terminer sur ce siècle présent, le monde voudrait faire un monde meilleur sans changer la nature humaine. Mais la nature humaine, elle est changée à la croix du Christ. Et il nous est dit, à partir de ce moment-là, dans Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et c'est vrai que la difficulté pour nous, chrétiens, c'est de nous mettre à l'écoute de Dieu pour faire ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Parce que Dieu a pour chacun des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il ne veut pas que nous fassions n'importe quoi. Et c'est très bien ce que tu fais de te retirer pour réfléchir quelle est, Seigneur, ta volonté pour moi. Parce qu'on peut faire des choses qui apparemment sont très belles, mais qui finalement ne sont pas dans le plan de Dieu. Et ça, il faut faire attention. Et on l'apprend à ses dépens aussi. Et vous voyez, il y a ici dans le Nouveau Testament un homme qui s'appelait Démas. Et Paul écrit à Timothée et il lui dit « Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. » Vous voyez, Démas, c'était ni un buveur, ni un menteur, ni un voleur, ni un violeur, ni quoi que ce soit. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a préféré le siècle présent. C'est tout. Et en faisant ça, il a abandonné le chemin que Dieu avait préparé pour lui. Et à partir de là, il a tout perdu. Alors, pour tous les Démas, tous ceux qui préfèrent le monde à chercher la face de Dieu plutôt, pour tout cela, Satan va organiser une grande simulation, une grande tentation. Et il nous est dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, etc. Satan est tout à fait capable de faire des guérisons, est tout à fait capable de faire des miracles. Mais si on n'est pas à l'écoute de Dieu et fidèle à sa parole, alors on va dans le mur. Et il va y avoir une grande tentation. Alors, la société actuelle repose sur la nature humaine, et cette nature humaine, elle a deux grands piliers, l'orgueil et l'égoïsme. Et donc, dans le royaume de Dieu, les humains ont changé de nature, et les piliers ne sont plus les mêmes. Alors, les huit poteaux que Dieu a mis exprès pour nous empêcher de faire des bêtises. On va les passer en revue. Le premier poteau, tu m'arrêtes si je suis trop long. Le premier poteau, c'est la mort. La mort. Le Seigneur a dit dans le livre de la Genèse, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Croyez-moi, frères et sœurs, ce poteau-là, on n'est pas là de le retirer. La mort, on y passera tous. Et pourtant, le Seigneur le retirera. Il le retirera en son temps, parce qu'il nous est dit dans 1 Corinthiens 15, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, voyez qu'il le retirera. Mais en son temps, c'est lui. Le deuxième poteau, c'est le temps. Il nous a mis dans un univers où il y a du temps. Et l'Éternel a dit ceci, Genèse 6, 3, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, et car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Jeanne Calment est allée jusqu'à 124. Mais il n'y en a pas beaucoup qui dépassent 120. Et quand on a 90, on est content. C'est Dieu qui a mis le poteau. Mais c'est lui qui le retirera. Écoutez, Jean 3, 16, que vous connaissez tous par cœur. Dieu a tant donné le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'est plus question de temps. La vie éternelle. Il y en a certains pour blaguer qui disent l'éternité, c'est très long, surtout sur la fin. Il n'y a plus question de temps. Le troisième poteau qui a été mis sur notre chemin, c'est la souffrance. Eh oui. Et on en parlera tout à l'heure, parce que je vais reprendre chaque point, si vous voulez, après. Mais Dieu a dit dans Genèse 3,16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, et tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et on voit que là, la souffrance a été introduite dans notre monde. Et c'est la condition humaine. Rassurez-vous, il n'y a pas que les femmes qui souffrent, les hommes aussi. Mais les souffrances sont là. Et pourtant, Dieu retirera ce poteau. Dans l'Apocalypse 21 au verset 4, il nous est dit, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Car les premières choses ont disparu. Donc Dieu va retirer ce poteau. Vous voyez, ça c'est l'espérance. Vous voyez, que Dieu va retirer tous ces poteaux de la condition humaine qui fait justement la souffrance ici. Le quatrième poteau, c'est le travail pénible. Eh oui. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Le sol est maudit. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture. Alors que dans le jardin d'Éden, il suffisait d'attraper les fruits. Mais le Seigneur nous dit autre chose. Et ça peut être déjà appliqué maintenant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors ça, à chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole, je le dis. Frères et sœurs, quand on sert le Seigneur, ça doit être facile, ça doit être un joug léger. Si c'est un poids, arrêtez-vous et demandez au Seigneur s'il faut continuer. Parce que le Seigneur a dit, recevez mes instructions, donc il va les donner. Et il dit, je suis doux et humble de cœur, donc c'est pas un tortionnaire. Et vous trouverez du repos. Voyez, servir le Seigneur, ça doit se faire paisiblement. Et quand on est devant sa face, on reçoit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Seigneur, même si tu ne me le dis pas, conduis-moi à faire ce que tu as préparé d'avance pour moi aujourd'hui. Et c'est vrai que quelquefois, le Seigneur, il n'éclaire pas 3 mètres devant, il éclaire juste à nos pieds. Ça aussi, ça arrive. Ensuite, le cinquième piquet, c'est que Dieu a mis des états-nations partout sur la terre. Il a mis des nations. Et il dit dans Genèse 10, voici la postérité des fils de Noé, donc on a toute la postérité, et il est dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Et c'est une volonté de Dieu. Et je vous ferai remarquer, frères et sœurs, que ça, c'est écrit avant la tour de Babel. C'est-à-dire que les langues, les différentes langues, existaient avant la tour de Babel. Et on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Mais c'est une volonté de Dieu. Et il nous est dit maintenant que ça, dans l'Apocalypse 22, il est dit, il me montra un fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Vous voyez, Dieu y tient à ses nations. Il tient à ses nations. Parce qu'il tient à la multitude, à la multiplicité. Le sixième poteau qui a été mis autour de l'humanité, c'est, je vais vous lire juste un verset, vous allez comprendre, Genèse 2, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Ça veut dire que Dieu a décidé, dans sa grande sagesse, qu'il y aurait deux sexes. Et que ces deux s'unissent pour former des familles. Ça, c'est un poteau que Dieu a donné. Et c'est lui qui retirera ce poteau. Vous allez me dire, quoi, il va retirer ce poteau-là ? Mais bien sûr. Parce que ça fait partie de la condition humaine. Et dans Matthieu 22, il est écrit, « Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera donc-elle la femme ? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Il n'y a plus de sexe. Fini. C'est Dieu qui a retiré. Vous voyez ? Après, il y a de multiples langues. De multiples langues. Alors, je voudrais vous rappeler la chose suivante. C'est le verset que j'ai lu il y a 5 minutes et qui disait que Dieu a donné les nations et chacune avait sa langue. Mais ils se comprenaient tous. Et il s'est produit un autre événement juste après. C'est le chapitre qui suit dans Genèse 11. Écoutez ce texte, c'est bizarre parce qu'on nous a dit juste avant qu'il y avait plusieurs langues. Et ici on nous dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Tiens, alors il se contredit. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, ils y habitèrent, ils se dirent l'un à l'autre, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, faisons une tour dont le sommet touche au ciel, faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la face de la terre. Donc, voilà, des gens qui se comprennent et qui sont d'un commun accord pour faire une tour qui touche au ciel. Vous savez, ça a un sens spirituel, c'est une réalité physique, mais ça a un sens spirituel. C'était quoi ? C'était de faire une organisation qui remplace Dieu, qui touche au ciel. C'est un peu ce qu'on essaye de faire ici. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu descendit pour voir la ville et la tour, et l'Éternel, et voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, c'est là ce qu'ils ont entrepris. Et l'Éternel les dispersa, Et il dit « confondons leur langage ». Tiens, vous voyez, ce n'est pas le même mot. Il ne dit pas « confondons leur langue ». Il dit « confondons leur langage ». Alors, je voudrais m'expliquer un petit peu, parce qu'ils se sont plus compris tout d'un coup. Vous savez, je vais prendre le cas de l'Église. Dans une Église, quand on veut s'approcher de Dieu, on peut le faire par ses propres forces. On peut le faire aussi guidé par le Saint-Esprit. Quand on le fait par ses propres forces, c'est comme si on voulait toucher le ciel par ses propres forces. C'est donc comme si on voulait rebâtir la tour de Babel. Eh bien, dans ce cas-là, regardez ce qui se produit. C'est que généralement, il se crée des disputes dans les églises. Et il y a une discorde. On parle la même langue, le français, mais on ne se comprend plus. C'est ça, confondre le langage. Vous voyez ? Tandis que si on suit le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se produit ? Eh bien, le Saint-Esprit va créer l'unité de l'Église. Vous voyez, c'est différent. Alors, Dieu a voulu les multiples langues, mais il nous dit, ce poteau-là, il va le retirer, puisqu'il nous est dit dans 1 Corinthiens 13:8, « La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront. » Les langues cesseront. Donc on se parlera tous de la même langue à l'avenir, et je peux vous dire à l'avance que c'est la langue des anges. Il n'y aura plus besoin d'autres langues. Enfin, le huitième poteau, c'est le besoin de connaissance. Je m'excuse, hein, je vais essayer d'accélérer, mais... Besoin de connaissance. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça aussi, c'est un drôle de truc. Elle n'a pas goûté, mais elle voit qu'il est bon. C'est bizarre, hein ? Agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit. Et qu'est-ce qui se produit ? Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent. Ils connurent qu'ils étaient nus, etc. Donc, voilà la connaissance qui démarre. Alors, je vais en parler après de cette connaissance, mais franchement, on ne peut plus arrêter ce mécanisme. L'homme a besoin de connaître. Il a besoin de chercher. Il cherche tout le temps à améliorer quelque chose. Et ce besoin-là, il est partout. Et pourtant, 1 Corinthiens 13:8, la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Donc vous voyez, Dieu retirera ce poteau-là. Pourquoi ? Parce que quand on arrivera dans son royaume, on aura la connaissance immédiate de tout. Et il n'y aura plus besoin de chercher pour connaître. Alors, la deuxième grande tentation de Satan. Si vous me donnez encore un peu de temps, on va aborder cette question. La deuxième grande tentation de Satan, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, figurez-vous que lorsque l'homme s'est courbé devant le malin, au jour de la première tentation, quand il s'est courbé devant le malin et qu'il a obéi au malin, alors, l'homme a fait là quelque chose d'horrible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, quand Dieu a mis l'homme sur la terre, il lui a dit, voilà, domine sur la terre, domine sur les animaux, domine sur tout, cultive le jardin. Et il lui a donné l'autorité pour dominer sur la terre. Quand vous vous courbez devant quelqu'un, vous lui donnez votre autorité. Par conséquent, l'homme qui avait reçu cette autorité de Dieu a donné à Satan son autorité. Et maintenant, Satan dit « Je domine sur la terre, sur les animaux, sur la création, etc. » Et c'est comme ça que Satan a emmené Jésus au pinacle du temple, en lui disant « Tu vois tous ces royaumes, si tu te prosternes devant moi, je te les donnerai car ça m'a été donné. » Par qui ? Par les hommes. Et ce que Jésus est venu faire sur la croix, c'est justement de lui reprendre cette autorité-là. Et comme Jésus est la tête de l'Église, cette autorité, il la donne à l'Église. Vous comprenez le mécanisme ? Et voilà l'autorité que nous avons reçue, c'est l'autorité originelle que Dieu avait donnée à l'humanité. Mais tous ceux qui ne veulent pas appartenir à Jésus-Christ n'ont pas cette autorité. Et l'autre agit sur eux. Alors, prenons maintenant chaque pied, les 8 poteaux, et voyons quelle est la tentation de chacun, de Satan, sur cette humanité qui ne croit pas en Jésus-Christ, et qui ne croit pas que ces 8 poteaux vont s'enlever tout seuls. Ils vont vouloir les retirer. Alors, le premier poteau, eh bien, c'est la mort. Et comment va-t-il faire ? Eh bien, figurez-vous que dans l'Apocalypse, il y a un verset qui dit, Apocalypse 17, 8, « La bête que tu as vue, était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. » Vraisemblablement, frères et sœurs, celui qu'on appelle l'Antéchrist va simuler une mort et une résurrection. Parce qu'il Satan copie toujours Dieu. Et donc Satan va copier Jésus-Christ. Et donc il va simuler une mort et une résurrection. Et alors on va dire, oh, miracle, il est ressuscité des morts. On a enfin vaincu la mort par la science. Voyez ? Et alors, actuellement, vous avez des tas de gens qui se font mettre dans les glaçons, là, en attendant une façon de sortir vivant du glaçon. Mais ça, bon. Hein. Mais vous verrez, il y aura quelque chose comme ça. Le temps, frères et sœurs, le deuxième piquet. On se force de plus en plus dans notre société de faire tomber la notion de temps. Regardez, moi j'ai un frère qui habitait en Martinique avec Internet, c'est génial. C'est instantané. On veut faire tomber la notion de temps. Et dans tous les domaines, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, vous connaissez les TGV, enfin tout va de plus en plus vite. Seulement, au bout du compte, c'est qu'on ne donne plus le temps au temps, comme on dit. Et on ne donne plus aux gens le temps de mûrir. On ne donne plus aux enfants le temps de mûrir. De vieillir. Et le bout du compte de ça, c'est qu'on est dans une société complètement stressée. Alors, c'est une société qui n'a plus le temps de réfléchir et qui avance par pulsion. Et naturellement, quand on avance par pulsion, eh bien, croyez bien qu'avec les pensées du malin, que l'Antichrist, il va faire avancer comme par décharge électrique l'humanité dans le sens qu'il le veut. La souffrance, frères et sœurs. La souffrance est une chose terrible. Mais la souffrance a le mérite de faire réfléchir. Vous savez, la souffrance, ou bien ça vous emmène vers Dieu, ou bien ça vous emmène dans le trou. Il y a des gens dans la souffrance qui vont se diriger vers Dieu. Il y en a d'autres dans la même souffrance, ils vont s'éloigner de Dieu. Et la souffrance a cette propriété de trier comme ça. C'est terrible à dire. Et il est vrai que les maladies physiques et psychiques sont parfois si terribles qu'on va chercher des moyens de soulager cette souffrance. Et je comprends très bien. Vous savez, moi j'ai un frère qui est mort de la sclérose en plaques, j'ai vu. J'ai 3 frères qui sont morts, j'ai vu. Je sais ce que c'est, donc c'est comme ça. Bon. Mais sous couvert de soulager la souffrance, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Eh bien, la société s'oriente de plus en plus vers des solutions de type euthanasie, des souffrances soi-disant qui nous emmènent des solutions type avortement, Mais remarquez les choses, c'est de plus en plus, ce n'est pas des souffrances qui nous amènent à des solutions comme ça, ce sont de simples gênes. Ça me gêne d'avoir un enfant maintenant, alors je le fais partir. Ça me gêne parce que je l'ai eu en dehors du mariage, alors on va le faire partir. Vous voyez, ce n'est pas des vraies souffrances, ça. Mais je voudrais vous dire autre chose, c'est que lorsque Dieu a fait sortir les Hébreux d'Égypte, c'était la fin d'un monde pour eux. Il y a eu un massacre des innocents. Pharaon a fait tuer les jeunes enfants. Lorsque Jésus est venu, c'était la fin d'un monde et la création de l'Église. Il y a eu un massacre des innocents. Hérode a fait tuer des jeunes enfants. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes à la fin d'un monde et nous allons arriver au retour de Jésus-Christ et il y a un massacre des innocents. Ça, c'est un truc perpétuel qui revient à chaque fois. Seulement maintenant, il est à la dimension planétaire et ça se compte par centaines de millions. Le travail pénible, frères et sœurs. Dans ce domaine, on a assisté à des changements formidables. Tout est mécanisé, robotisé, téléguidé. Autrefois, il fallait porter des lourdes charges, il fallait prendre la pelle, la pioche, etc., creuser à la main. Et les travailleurs sont maintenant non seulement aidés matériellement, mais ils sont protégés par des règlements, des lois, il y a des normes, enfin il y a des tas de choses. Seulement, laissez-moi vous dire une chose, c'est que la pénibilité a simplement changé de visage. La phrase populaire qui dit « boulot, métro, dodo », ça dit bien ce que ça veut dire. Maintenant, c'est la fatigue du trajet, c'est la course pour mettre les enfants en garde, c'est le stress permanent, c'est l'insécurité de l'emploi, c'est la concurrence acharnée, c'est l'oppression du patron qui dit « il faut en faire deux fois plus pour le même prix », etc., etc. Et donc, l'argent, c'est le vrai patron de tout ça. Il faut des bénéfices, des pourcents de bénéfices à deux chiffres, sinon on ferme, même quand on fait du bénéfice, on n'en fait pas assez, etc. Et c'est un stress permanent. Et finalement, les gens... Beaucoup de gens sont usés moralement et physiquement et plusieurs d'entre eux se sont suicidés cette année. La France détient le record mondial de neuroleptiques et pourtant c'est un pays évolué. Vous voyez ? L'État-nation, Dieu a voulu les nations, mais qu'est-ce que nous faisons ? Eh bien, les nations sont de plus en plus laminées. Et dans un bon objectif, on ne veut plus la guerre en Europe. Dieu merci, ça a été terrible. Hein? Mais maintenant, qu'est-ce qui se produit ? Eh bien, les décisions importantes quittent et quitteront de plus en plus les nations pour aller sur les supranations. Les décisions importantes seront prises à Bruxelles pour nous. Et ce n'est pas les parlements nationaux qui pourront dire le contraire. C'est un truc international, c'est fini. Et ces gens-là, c'est même pas sûr qu'on les connaisse, vous savez. Ils sont en train de nous diriger là tout doucement. On ne les connaît même pas, on ne sait pas qui c'est, etc. Donc vous voyez ces choses-là. Et l'État qui autrefois arrivait à maintenir l'ordre dans son pays, chacun, eh bien on s'aperçoit d'une chose... C'est qu'on a de moins en moins la possibilité de réprimer, mais par contre, on répare. On essaye de boucher les trous, de réparer ce qui ne va pas. Et les opinions publiques ne supportent plus aucune répression. L'insécurité va grandissante et ça aura comme conséquence qu'un jour, eh bien, les peuples appellent quelqu'un qui a l'autorité pour remettre tout ça dans l'ordre. De multiples langues. Alors, frères et sœurs, le moyen qu'a trouvé l'humanité pour faire tomber cette histoire de langue, eh bien, c'est que y a une langue qui domine toutes les autres actuellement, c'est la langue anglaise, et qui est devenue la langue internationale. Moi, je forme des élèves ingénieurs, eh bien, il n'y a plus un seul ingénieur en France qui soit formé sans avoir un diplôme officiel en anglais. Il n'a pas son diplôme s'il n'a pas le diplôme en anglais. Vous voyez ? C'est comme ça. C'est dans la commission des titres d'ingénieur. Donc maintenant, c'est obligatoire. Obligatoire. Et puis, il y a d'autres aspects. Vous avez les aspects de normalisation. Ça nous rend bien des services. Par exemple, quand on a une feuille de papier, que ça soit ici ou en Chine, c'est du A4. Le A4, c'est une norme ISO. Ça nous rend bien des services. Mais n'empêche que ISO, ça veut dire égal. Hein, c'est du grec. Ça veut dire égal. Et donc, on est en train, là, de tout niveler. Et c'est comme ça. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est tout le contraire de ce que Dieu a fait à Babel, où il a tout séparé. On voudrait que tout le monde aille dans la même pensée. Et tous ceux qui ne vont pas dans la pensée de la mondialisation, ils se font massacrer. Hein, prenez les défilés qui ont lieu quand les plus grands de ce monde se réunissent. Hein, on les garde à distance. Hein. Et ce n'est pas eux qui ont le dernier mot. Le besoin de connaissance. Le besoin de connaissance, ça se termine, rassurez-vous. On se demande qui pourra bien stopper la marche en avant de la recherche. Je crois que ce n'est pas possible, parce que de toute façon, le cerveau humain est très bien fait, très très bien fait. Les gens sont très intelligents, et par conséquent, on arrive à comprendre beaucoup de choses. Donc, on va arriver, oui, frères et sœurs, et si ce n'est pas déjà fait, on va arriver à cloner un être humain. Et je dis si je n'ai pas déjà fait parce que, vous savez, il suffit d'avoir de l'argent pour pouvoir payer des chercheurs un peu tordus, hein, qui n'ont aucun scrupule, de leur faire un laboratoire dans une île quelconque, et puis avec tout l'argent nécessaire, et pour faire leurs expériences. Et parce que vous avez beau l'interdire dans un État, qu'est-ce que ça peut faire? On ira ailleurs, comprenez? Même dans une île privée. Si j'ai une île privée à moi, je fais ce que je veux. Et donc, ne vous inquiétez pas, ça continue. Hein, on sait faire des moutons, on sait faire des vaches, donc on sait faire des humains. Mais ça prendra le temps qu'il faut. Et puis, là aussi, tout ce qui est génétique, hein, le tripotage génétique qu'on peut faire. Je vais vous donner un exemple. Moi, dans mon métier, je travaille dans la couleur. Et j'apprends aux gens que le monde n'est pas coloré. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça, il faudrait du temps pour l'expliquer, mais le monde n'est pas coloré. Le monde est gris, mais nous le voyons en couleur parce que ça se construit dans notre cerveau. Bon, les abeilles voient les fleurs de colza bleues. Nous les voyons jaunes. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a sur une fleur de colza? C'est que la fleur de colza prend la lumière du soleil et renvoie les ultraviolets. Et les abeilles voient l'ultraviolet. Donc, ok, elles voient l'ultraviolet de la fleur, donc un peu bleuté. Mais quand on a traité génétiquement le colza et qu'on a fait un colza trafiqué, le colza trafiqué ne renvoie plus les UV. Eh bien, les abeilles n'y vont plus, tout simplement. Et on joue à l'apprenti sorcier et tout ça va s'essaimer. Donc la société miracle qu'on est en train de nous faire, ben vous allez voir. Il y a aussi un autre domaine de la connaissance où les hommes sont inépuisables, c'est la connaissance de l'au-delà. La connaissance de l'au-delà, donc le domaine des esprits et des sciences occultes. Et là, ils sont inépuisables aussi. Tout ce qui est paranormal. Je vous ai dit, il y a à peu près 2000 religions sur Terre. C'est vraiment un super marché. Donc, ce qui est marrant, c'est de dans une société absolument scientifique, on commence à RTL à 7h du matin, 7h moins 5, eh bien, vous avez le droit à l'horoscope. Alors, je passe sur une autre chaîne. Donc, je vais conclure. J'ai déjà bien passé le temps. La mondialisation appelle à toujours plus de mondialisation. Il va y avoir nivellement des salaires et des taxes dans le monde. Il y aura de plus en plus de grands mouvements mondiaux de capitalisation spéculative et non pas de capitalisation pour produire, pour fabriquer. Vous savez, si vous comptez 100 francs ou 100 euros placés à la bourse, il y a peut-être 3 euros qui servent pour le travail. Tout le reste, c'est de l'argent. Il peut y avoir un crack économique, mes amis. Je vous en parlerai peut-être à une autre occasion. Mais tout ce qui peut se déclencher et comment les choses peuvent tomber les unes derrière les autres. Le monde tient sur des béquilles. Et ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que, bon, le contrôle virtuel partout, recoupement, mouchard, instabilité de l'univers mondialisé, atteinte au rythme naturel, dissolution des frontières, mammonisation, donc la puissance de l'argent. Et la mondialisation, elle était et elle est nécessaire, elle est indispensable à la venue de l'Antéchrist. C'est donc la dernière étape avant la venue de l'Antéchrist. C'est indispensable. Et je voudrais terminer en vous lisant un verset qui se trouve dans l'Apocalypse et qui pour moi est un verset qui est très parlant au point de vue de la valeur des choses dans ce monde. Je vous rappelle que Jésus est venu pour nous sauver, pour sauver l'âme de l'homme qui était perdue. Eh bien, dans ce monde, l'ordre des valeurs est le suivant. Apocalypse 18, versets 11 à 13. Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Et on donne là l'ordre des valeurs. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. En dernier, juste avant les voitures. Les voitures sont avant les gens, les chars. Donc vous voyez l'ordre des valeurs de ce monde qui est en train de se construire. Et donc je termine là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse.